enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Nous voulons vous annoncer que Dieu n'est pas seulement l'être suprême, il n'est pas seulement le Dieu de l'univers, mais il est aussi un Père. Qu'il est un père pour tous ceux qui le recherchent et il a un rêve, il a une destinée, il a un désir pour votre vie. Je suis ému, extrêmement touché de voir la puissance d'attraction, d'encouragement, d'espoir de cette pensée du rêve de Dieu. Que la position de la parole de Dieu, si vous êtes avec nous les premières fois, l'annonce, la proclamation de la parole de Dieu et de la position chrétienne est que Dieu est un Dieu omnipotent, il a toute puissance, omniscient, il sait tout, il est omniprésent, il est partout à la fois, mais il est aussi un Dieu infiniment proche de chaque être humain avec un plan, une destinée, une vie de préparer pour chaque personne, que Dieu est proche. Et je suis touché par comment cette pensée-là embrase des cœurs. Hier, j'étais ici et j'enseignais une classe de leadership à l'Institut de théologie pour la francophonie. Et je voyais tous ces étudiants et cette pensée, cette année, de plus de, on a la graduation dans quelques semaines ou mois, un mois et demi, et de cette pensée de plus de 400 étudiants qui viennent de partout au Québec, viennent de beaucoup de pays, différents pays de la francophonie, plusieurs d'entre eux, on fait de grands sacrifices, laissant famille à l'arrière et laissant des emplois rémunérateurs et qui viennent en réponse à une vocation, viennent en réponse à l'appel de Dieu. Et ils viennent parce qu'ils croient que ce n'est pas une chimère, c'est pas une pensée seulement, c'est quelque chose de véritable, de réel. Dieu a un plan pour notre vie et il a des œuvres préparées d'avance pour nous. Est-ce que vous le croyez ce matin? Cette pensée extraordinaire d'un Dieu qui dit « j'ai un rêve pour toi ». Le psalmiste le dit ainsi dans le psaume 138, « L'Éternel est élevé, mais il voit toujours celui qui est abattu. Lorsque je marche dans la détresse, c'est lui qui me garde en vie, c'est lui qui me fait revivre. » Et l'Éternel, ça c'est la confession de foi de chaque croyant, « L'Éternel accomplira toutes ses destinées pour moi. » Voulez-vous le dire avec moi à voix haute? « L'Éternel accomplira toutes ses destinées pour moi. » L'assurance qui calme nos cœurs à travers les pires tempêtes, que l'Éternel n'abandonne jamais l'œuvre de ses mains. Le psalmiste continue en disant, « Tu voyais ce que j'étais pour devenir, ô Dieu, avant même que je ne sois formé. Dans ton livre était écrit tous les jours de ma vie et était écrit dans ton livre tout ce que tu avais de préparé pour moi. » C'est pourquoi nous étudions la vie de Joseph et elle touche une corde sensible dans le cœur de tellement de personnes. On a découvert ce personnage qui est de plusieurs milliers d'années derrière nous dans l'histoire, mais qui est si proche de nous dans sa réalité, l'expérience humaine demeurant universelle. Nous voyons Joseph et l'arrière-plan tellement dysfonctionnel dans lequel il a grandi, le mépris dans lequel il a grandi, la dureté, l'injustice, l'incompréhension qui l'entourait, timidement proclamant le rêve de Dieu. Et avec c'est la seule chose qu'il a, s'accrochant au rêve de Dieu pour sa vie, battu et rejeté par les gens qui étaient supposés l'aimer, ceux qui étaient les plus proches de lui, autour de lui, qui le méprisent, l'abandonnent, arrêtés injustement, jetés dans un puits, amenés en prison, accusés injustement, emprisonnés injustement. Mais à travers toute cette période-là, chaque étape, longues années de sa vie, le rêve de Dieu qui ne pouvait pas être avorté, le rêve de Dieu qui ne pouvait pas être tué, le rêve de Dieu qui ne pouvait pas être anéanti. Et Joseph qui traverse toutes ces étapes et dans son cas, lui, de famille dysfonctionnelle, à esclave enchaîné, à détenu emprisonné et oublié, l'appel de Dieu, la destinée de Dieu dans son cas, à devenir littéralement un des dirigeants de son époque, de son pays, à être un outil dans la main de Dieu pour bâtir la plus grande banque alimentaire de l'histoire et sauver une population de la famine et cette conviction qui l'anime et qui anime beaucoup d'entre nous, je crois que il y a des milliers et millions de personnes qui nous entourent, qui la cherchent. J'aimerais vous proposer qu'il y a partout autour de nous, à l'école, les jeunes qui sont ici, vos amis d'école, cégep, secondaire, université, dans nos lieux de travail, dans nos familles, assis à côté de vous peut-être ce matin. Et dans cette société, il y a toute une multitude de personnes qui cherchent des réponses, qui cherchent une certitude, qui cherchent un sens à la vie, qui cherchent une direction et un épanouissement et une satisfaction pour leurs âmes qu'aucun bien matériel ne peut leur donner. J'étais à New York cette semaine prêchant à l'église de David Wilkerson, et dans l'actualité, j'étais touché de voir toute l'actualité, surtout les journaux à potins et les émissions de télévision qui parlaient de cette jeune chanteuse pop américaine, Britney Spears, et parlaient de tout ce qu'elle vit et les problèmes qu'elle a. Et j'étais en réflexion, je regardais tout ça dans les journaux et je posais une question ce matin à cette assemblée. Quelqu'un pourrait dire, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? En pensant à elle, j'ai pensé à quelqu'un d'autre, un autre artiste, mais lui, québécois, qui était très connu ici au Québec il y a quelques années, qui s'appelle Dédé Fortin. Et je pensais aux deux, et quelqu'un pourrait dire qu'est-ce qu'il peut y avoir en commun avec la reine du pop disco et un artiste comme américaine et un artiste québécois pur laine comme Dédé Fortin. Certains d'entre vous ne connaissez ni un ni l'autre, mais il y a plusieurs qui sont ici qui connaissaient un ou l'autre. Et pourtant, bien que ce soit des azimuts qui sont aux antipodes dans toutes sortes de choses, je crois qu'il y a dans les deux. Il y a dans les deux un cri, il y a dans les deux le reflet et leur cri. Moi, je crois que beaucoup de ces chanteurs populaires et chanteuses populaires ont une voix et ce qu'ils chantent et ce qu'ils expriment, des millions achètent leurs albums et les suivent parce que ça trouve un écho dans leur cœur à eux. Et lorsque j'étais à New York, tout le monde, dans l'actualité, parlait des déboires et des difficultés de cette jeune chanteuse, Britney Spears, et la revue Forbes évalue sa fortune personnelle à 60 millions de dollars. Dites à la personne près de vous, c'est un petit peu plus que moi. Dites à la personne près de vous. 60 millions de dollars. Ce que vous comprenez à la célébrité, fortune, ce que vous voulez, ce que vous comprenez, qu'il y a des milliers et milliers de jeunes qui regardent à elle et qui se disent, si j'avais seulement ce qu'elle avait, moi, je pourrais être heureux. Je pourrais être heureuse. Et cette jeune femme qui a toute cette fortune, cette célébrité, mais qui est profondément bouleversée, profondément désorientée. Elle a des problèmes. C'est dans les journaux. Elle va d'un centre de désintoxication à un autre. Elle a des problèmes de drogue, de toxicomanie. Elle a des enfants. On lui a enlevé ses enfants. Et il y a deux semaines, ça a fait toutes les manchettes. Elle s'est présentée un peu ahurie et déboussolée dans un salon de coiffeur. Elle a dit, rasez-moi la tête. Ils n'ont pas voulu le faire. Elle a pris un rasoir et elle s'est rasée la tête. Et là, toutes les photos font le tour du monde. Et dans le New York Post, il y avait une citation le 6 mars cette semaine. Il y avait une citation de la meilleure amie de Britney Spears, une jeune fille que tu vois sur plein de photos avec elle à travers toutes ces années, de sa jeune carrière qui a grandi avec elle, et qui disait ceci. « Britney a tout, mais elle n'a rien. Rien qui peut combler le vide qu'elle a en dedans. Des millions crient son nom, mais elle est la femme la plus seule au monde. » Elle aime ses enfants, mais elle n'est pas capable d'arrêter ce qui la ronge et la détruit. Elle veut être une bonne mère, mais elle n'est pas capable. Elle veut être heureuse, une mère, une artiste, un modèle, mais elle déteste ce qu'elle est. Elle dit souvent qu'elle ne veut plus vivre et même qu'elle veut mourir. Et Dédé Fortin est un artiste qui, au niveau musical et artistique, était aux antipodes d'une Britney Spears, mais qui avait les mêmes flammes de désespoir qui brûlaient dans son cœur. Dans la chambre de leur cœur, il y a des milliers et milliers de personnes qui nous entourent, qui ont ce même sentiment de je coule, et je suis pas capable de changer ma vie, je voudrais être quelque chose que je suis pas capable de devenir, je voudrais m'emparer de quelque chose que je suis pas capable d'être. Dans la chambre de leur cœur, dans la forêt des mal-aimés, il y a tellement de gens qui vivent ces sentiments. Dédé Fortin était un jeune artiste qui montait en flèche et qui s'était établi, pour les standards ici québécois, une sécurité financière. Ses albums se vendent extrêmement bien, est en train de percer la France, est un artiste respecté, avait gagné des prix. Et ceux qui le connaissaient, ils écrivaient, c'était un paradoxe. Ils pouvaient dans un même album écrire des chansons d'une profondeur terrible, et tout à côté, il y avait un talent pour écrire des chansons très, très rythmées, avec des styles jouissifs. Et parfois, tu pouvais le voir sur un stage, c'était un showman incroyable, et tu pouvais le voir, il semblait avoir toute cette énergie, et ceux qui le connaissaient les plus près disaient que c'était un homme qui avait un désespoir dans son âme. Un désespoir qui l'a amené jusqu'à un soir fatidique où il a appelé son meilleur ami, son gérant, lui a dit « Prépare-moi le souper que j'aime tant », puis il avait un certain plat au saumon qu'il aimait, et il en a mangé plusieurs fois, a salué son gérant, l'a pris dans ses bras, ce qui n'était pas caractéristique pour lui, s'est en allé chez lui, a sorti sa plume, et avec le talent qu'il avait, mais l'encre devenant littéralement l'expression affliction, les larmes de son désespoir, avec les larmes de son désespoir, il a écrit ces mots. Et périodiquement, c'est la dernière pièce qu'il a écrit, et on l'a connu parce qu'elle a, il l'a laissé en héritage, il l'a laissé en testament, ça s'est retrouvé sur la page couverture de la presse. Et périodiquement, je relis ces quelques mots. Je suis jamais capable de les lire sans émotion. Parce qu'à chaque fois que je les lis, j'entends le cri d'une génération qui cherche sans le savoir le rêve de Dieu, qui cherche un sens à sa vie, qui cherche une puissance qu'il n'a pas et qu'elle n'a pas en elle-même pour faire un pas vers le rêve de Dieu. Alors que vous entendez ces mots de Dédé Fortin, un extrait de la dernière lettre qu'il a écrite, je veux vous compreniez, tous ceux qui vont entendre ce message par la radio et par l'Internet, que vous puissiez entendre le battement de cœur d'une génération qui cherche celui qui pourrait leur donner la force et la puissance d'accomplir le rêve de Dieu. Dédé a écrit « Comme le temps est pesant, en mon âme escogriffe, un grand ciel menaçant, un éclair qui me crie. Ton cœur est malicieux, ton esprit dans ses griffes, ne peut rien faire pour toi. » Car tu es tout petit. Les nuages voyageurs font des dessins abstraits. Ils me parlent de bonheur que jamais je n'entends. Je pourrais faire comme eux et partir sans délai, léger comme une poussière transportée par le vent. Et dans la solitude de ma danse aérienne, le courage revenu, je trouverai les mots, je résisterai sans cesse des prières pour que vienne la douleur du silence d'un éternel repos. Mais dans la solitude de ce nouveau désert, j'aurai tout à construire pour accueillir la paix et tout mon temps aussi pour prévenir l'univers que la joie est revenue et qu'elle reste à jamais. Mais, condamné par le doute, immobile et craintif, je suis comme mon peuple, indécis et rêveur. Je parle à qui veut de mon pays fictif, le cœur plein de vertige et rongé par la peur. Et après avoir écrit ces mots, Dédé Fortin a pris un poignard qui s'est enfoncé dans le ventre, il s'est éventré. Et les médecins légistes ont dit que ça devait être une douleur absolument atroce et qu'il a dû mourir sur de longues heures d'agonie. Ils l'ont trouvé mort au bout de son sang dans son appartement. Et lorsqu'on pense à l'impensable, lorsqu'on pense à la folie d'un tel geste, essayez simplement d'imaginer l'intensité de la douleur qui est en dedans, que tu veux simplement faire cesser, que quelqu'un comme lui voulait simplement faire cesser. Et à Britney Spears, il y a Dédé Fortin, il y a des milliers et milliers qui vont entendre ce message, il y a des gens qui sont ici dans ce lieu ce matin. Dieu dit, je suis celui que tu cherches. Dieu dit, je suis celui qui a un rêve pour toi. Il y a en moi cette puissance, si tu me reçois, il y a en moi cette puissance pour accomplir mon rêve. L'Évangile de Jean dit de cette façon, Jésus est la véritable lumière du monde, Jean chapitre 1. C'est lui qui éclaire tous les hommes qui vont le recevoir. Il est venu chez les siens, chez ceux qui lui étaient précieux, et vous êtes précieux pour lui ce matin. Mais ils ne l'ont pas reçu, ils ne l'ont pas saisi, le grec, le mot pour recevoir, littéralement, c'est s'emparer de lui. Il vient vers toi, mais est-ce que tu vas le saisir ce matin? Est-ce que tu vas le saisir? Parce qu'à tous ceux qui le reçoivent, il a donné une puissance afin de devenir. Eh bien, les gens me demandent souvent, c'est quoi ton verset préféré des Écritures? C'est absolument impossible de donner un verset, alors que des centaines de passages bibliques sont vie pour moi, et sont tellement précieux pour moi, elles sont lumière et vie. Mais laisse-moi vous dire que celui-ci est parmi ceux que je chéris depuis que j'ai l'âge de 17 ans. Cette possibilité, cette promesse qu'à ceux qui vont le recevoir, Dieu dit, je vais te donner le pouvoir de devenir, the power to become, qu'il y a, je l'ai trouvé, et vous l'avez trouvé, qu'il y a en Dieu cette possibilité de trouver un pouvoir, une puissance pour être ce que je pourrais pas être autrement, pour vaincre ce que je pourrais pas vaincre autrement, pour devenir tout ce que Dieu avait rêvé que je sois. Quelqu'un, que ceux qui ont trouvé cette puissance disent amen dans ce lieu ce matin et applaudissent la possibilité du rêve de Dieu. De Joseph à vous et moi, de Joseph à vous et moi, la puissance du rêve de Dieu est une des plus grandes preuves de Christ, de la résurrection et de l'unicité du message chrétien. L'unicité du message chrétien. Il y a eu un petit remous dans l'actualité, dans les dernières semaines, un film de James Cameron, qui est un documentaire qui va passer sur Discovery, qui est un peu une espèce de rebrassage des idées du code de Da Vinci, la pensée que Christ n'est pas réellement ressuscité, il y a un tombeau qui a été retrouvé avec certains noms. Et dans les prochaines semaines, je vais apporter un dimanche matin un message, je vais répondre aux prétentions de ce film avec une réfutation, avec des arguments autant sur archéologiques que argument historique et scientifique et théologique et argument logique pour lequel nous pouvons réfuter facilement ces prétentions. Mais j'aimerais dire que un des arguments les plus puissants pour la résurrection de Christ, c'est les millions de personnes 2000 ans plus tard que pour eux la résurrection de Christ n'est pas un fait à être débattu, parce que le Christ ressuscité, c'est pas un concept pour eux, c'est pas une possibilité. Le Christ ressuscité est vivant, il vit dans leur cœur et il leur donne à chaque jour une puissance de faire des choses qu'ils feraient pas autrement. De Joseph à vous et moi aujourd'hui, la puissance de devenir, pour ceux qui la reçoivent, pour ceux qui la saisissent, change des êtres humains. Il les rend capables de devenir ce que Dieu voulait qu'ils soient et accomplir le rêve de Dieu. Vendredi cette semaine, quelqu'un m'a amené un DVD, puis on va en faire un montage. C'est un DVD d'à peu près une heure, mais on va en faire un montage dans les prochaines semaines. Le montage n'est pas fait ce matin. J'ai reçu là à 48 heures, mais je vais juste m'en montrer un petit extrait. Ce matin, c'est un montage qui est un DVD qui est envoyé dans des écoles, qui est envoyé dans des centres de jeunesse, dans des pénitenciers pour jeunes et à différentes écoles et partout dans les polyvalentes, partout au Québec. C'est un DVD qui est fait et financé par le gouvernement du Québec et surtout par le DVD de prévention pour tout ce qui est le phénomène des gangs. Pour parler aux jeunes, et il y a différentes personnes qui parlent sur le DVD. Il y a un directeur d'école, le directeur de l'école Joseph-François Perrault à Saint-Michel, mon école où je suis allé lorsque j'étais ado. Et il y a plusieurs intervenants sur ce DVD, mais il y a aussi un ancien membre de gang qui parle sur le DVD, qui s'appelle Emmanuel et qui vient ici à l'église Nouvelle Vie. Il a été demandé pour être sur ce DVD qui est envoyé, pour applaudir, qui est envoyé partout au Québec. Et j'étais tellement touché parce que je regardais le DVD et on va en regarder une minute dans un instant, mais chaque intervention d'Emmanuel est tellement dynamique sur le DVD. Dieu lui donne une sagesse extraordinaire. Et en ce moment, Emmanuel va dans des écoles, il va dans des centres, des pénitenciers pour jeunes, il travaille avec la police, il travaille en collaboration avec les policiers, avec les travailleurs sociaux, les intervenants, jeunesse, la DPJ, et il va dans des endroits comme le Mont-Saint-Antoine et avec la permission et respect pour les autorités, il demande la permission et on lui accorde, il partage sa foi, il parle de ce que Dieu lui a donné, et je souris tout le temps. J'étais émerveillé de voir ça, c'est la puissance de devenir, la puissance que Dieu donne pour accomplir le rêve de Dieu qu'on ne pourrait pas faire en nous-mêmes, et je pensais en souriant à la première fois que j'ai entendu le nom d'Emmanuel Lafontaine. Une fois que j'ai entendu son nom, c'est parce que sa blonde, celle qui est la mère de ses enfants, vivant ensemble à ce moment-là, elle s'était approchée de Dieu et avait reçu le Seigneur, elle faisait des pas vers Dieu elle-même, commençait à venir à l'église, et lui était furieux, c'était un homme rempli de haine, rempli de colère, et puis elle faisait du trafic d'armes, puis il y avait des armes sur lui tout le temps, puis toutes sortes de crimes terribles, extrêmement durs, extrêmement violents, la vie dans laquelle il était, et puis elle lui parlait de l'église, il devenait de plus en plus intolérant pour l'église, de plus en plus violent, et un matin, s'en allait à l'église, puis lui, il a dit, c'est assez, puis il y avait une semaine d'horreur, puis il a dit, c'est assez, tu n'iras plus à cette affaire-là, puis moi, je vais y aller, puis je vais faire sauter votre église, puis le gars en avant, je vais y régler son cas, moi, il fait son affaire. Et elle est arrivée avec sa mère, puis elle dit, écoute, on veut juste vous avertir, parce que là, moi, je suis pas capable de le contrôler, je sais pas ce qui va arriver, il peut venir un matin, j'ai été très pastoral dans ma réponse. J'ai dit, voyons donc, écoute, t'inquiète-toi pas pour ça, Julie, ça va être correct, et puis aucun problème, le Seigneur va nous protéger, ok, va voir, que Dieu te bénisse, inquiète-toi pas, tout va être correct. Puis après ça, j'ai appelé tous les gars de sécurité, ok, il y a un gars qui s'en vient à rendez-vous. Mais lorsqu'Emmanuel est entré, la présence de Dieu, le rêve de Dieu, la puissance de Dieu s'est emparée de son cœur sur des semaines et sur des mois. Dieu a fait une œuvre en lui. Il lui a donné la puissance de devenir. Que vous comprenez de quoi je parle, le power to become, de devenir un homme, de devenir un mari, de devenir un homme honnête, de devenir un homme libéré de ses captivités, de travailler pour la première fois de sa vie honnêtement, de devenir quelqu'un qui peut être un mari, qui peut être un père, de devenir quelqu'un qui rayonne l'amour. Dans le DVD, on ne verra pas ce matin, il dit, pendant des années, j'ai eu une étiquette dans mon dos, membre de gang, mais il dit, j'avais une étiquette dans le dos, mais maintenant j'ai une bannière en avant qui dit l'amour, c'est ça qui est sur ma vie. Et alors que, vous allez entendre juste quelques mots, c'est la fin du DVD, ils ont terminé le DVD avec ces paroles-là d'Emmanuel. J'aimerais que vous ouvriez vos cœurs et disiez, Seigneur, aux hommes, ces choses-là sont impossibles, mais à Dieu, rien n'est impossible lorsque nous recevons et nous saisissons la puissance pour le rêve de Dieu. Alors, regarde ensemble.
Quels sont les rêves et comment je vois mon avenir? Martin Luther King a dit une phrase que c'est répété souvent. I got a dream. Et oui, j'ai un rêve. J'ai un rêve. J'ai un rêve qui brûle dans mon cœur. J'ai un rêve. J'ai une vision. Et peut-être pour des gens, ça paraît impossible. Mon rêve, c'est qu'un jour, il n'y ait plus de game. Qu'un jour, les bleus et les rouges se donnent la main. Qu'un jour, tous ces jeunes-là qui se divisent et qui s'arrachent la peau, qui se déchirent la chair, trouvent l'amour.
Yo! Est-ce que vous m'entendez? Je parle au monde dans le street. Je parle au monde dans les bars. Je parle même au monde dans le church. Guys, y'a un danger outside. Stop the hustle.
Check la scène des 27, c'est le même. Okay. Deux formes sûrement, y'a aucun club qui donne. Mm. Moi, j'chill sur le side. J'suis curieux de savoir c'est quoi le nouveau vibe. Check the sky, baby blue jeans, baby blue shoes, with some baby blue bling. Me sens que t'es joint quand je te regarde. Baby boost, encore un bébé, t'as même pas 16, so j'imagine le scénario. Fonce cap pour passer le bouncer. Bouge comme Beyoncé dans Crazy in Love. Y'a un patiné qui t'invite dans sa nouvelle Range Rover.
Oh. Alors que vous voyez Emmanuel marcher dans sa destinée pour le rêve de Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir ensemble la puissance? La puissance du rêve de Dieu. Moi, je joins ma voix à la voix de ce rappeur que le monde écoute, que l'Église écoute et que ce monde écoute. Il y a un Dieu qui a un rêve. Il y a un Dieu qui a une puissance et il est capable, quel que soit où que tu sois dans la mosaïque de la vie, il est capable de s'emparer de toi et d'accomplir son rêve si seulement tu le saisis, si tu le reçois ce matin. C'est ce que nous avons vu ensemble dans cette série de messages, la puissance du rêve de Dieu, la protection, comment protéger le rêve de Dieu, la patience et la persévérance pour le rêve de Dieu. Nous sommes en ce moment dans une portion de la vie de Joseph où nous apprenons comment protéger, comment préparer le rêve de Dieu, la préparation pour le rêve de Dieu. Nous déclarons avec foi que nous pouvons être le produit de notre passé, mais nous n'avons pas à être prisonniers du passé, que nous pouvons posséder le rêve de Dieu si nous acceptons d'être préparés pour le rêve de Dieu. Qu'alors que les choses qui arrivaient dans la vie de Joseph autour de lui, extérieures à lui, toutes sortes d'épreuves qu'il traversait, lui ne le réalisait pas. Et alors que tu traverses des choses que tu vois seulement des choses extérieures, la Bible nous dit qu'il y a des choses qui prennent place en lui. Dieu se servait de tout ce qui lui arrivait, utilisait les pires choses qui pouvaient lui arriver. Lorsque tu t'accroches à Dieu, les choses les plus terribles qui t'arrivent peuvent être utilisées par lui pour faire une œuvre en toi, pour te préparer toi afin de devenir ce qu'il a pour toi. On envoya devant eux un homme, Joseph. Il est devenu un esclave. On a serré ses pieds dans des fers. Mais le fer entrait dans son âme alors que la parole de Dieu le mettait à l'épreuve. Qu'il y avait des fers à ses pieds, mais bien plus important, il y avait une force qui entrait dans son âme. Il y avait un acier trempé dans son cœur. Il y avait un courage qui lui était communiqué. Il y avait une guérison qui lui était communiquée. Et alors que nous suivons Joseph pas à pas, nous faisons cette déclaration et cette réalisation. Je prépare le rêve de Dieu lorsque je poursuis passionnément la promesse de Dieu malgré le silence du ciel et les injustices. Je prépare le rêve de Dieu lorsque je me préoccupe des rêves des autres et je participe à leur accomplissement. Je prépare le rêve de Dieu lorsque je persévère, ça c'est ce matin, lorsque je persévère fidèlement avec Dieu dans ce qui me semble petit, pitoyable et tellement en dessous de mon rêve. Alors on va regarder notre texte ensemble ce matin dans le livre de la Genèse chapitre 39 et on va lire à partir du verset 20. Et si vous n'avez pas votre Bible, les versets vont apparaître à l'écran. Le maître de Joseph fut enflammé de colère, le fit mettre en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Et Joseph resta là en prison. Verset 21. L'Éternel était avec lui, il étendait sa main de bénédiction sur lui, et lui fit obtenir la faveur du chef de la prison. Et le chef de la prison, verset 22 du chapitre 39, le chef de la prison confia à Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et à la fin du verset 23, l'Éternel le faisait réussir dans ce qu'il faisait. Au chapitre 40 et au verset 5, il y a deux personnages qui entrent dans la prison et au cours d'une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte étaient enfermés dans la prison, firent tous les deux un rêve, chacun le sien pouvant recevoir une explication. Et Joseph vint au matin vers eux, les regarda et les vit tout tristes. À la fin du verset 7, il leur demanda « Pourquoi avez-vous un mauvais visage aujourd'hui? » Et ils lui répondirent « Nous avons fait un rêve, il n'y a personne pour nous l'expliquer. » Joseph leur dit « L'accomplissement des rêves appartient à Dieu. Racontez-moi votre rêve. » Et alors qu'il est instrument pour la libération d'un de ses hommes, juste avant que l'homme sorte de la prison, juste avant qu'il quitte vers la liberté, les portes s'ouvrent et le gars s'apprête à sortir, verset 14. Il y en a qui cherchaient dans la Bible ce que je suis en train de dire, mais on va revenir à la Bible dans un instant. Verset 14. Joseph s'en prend le bras du gars qui s'apprête à sortir et lui dit, « Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et agis, je te prie, aide-moi, agis avec bienveillance. Rappelle-moi au souvenir de Pharaon, fais-moi sortir d'ici, car je n'ai rien fait pour être mis au cachot. » Et à la fin du chapitre, au verset 23, « Mais le grand échanson ne se souvient pas du tout de Joseph, il l'oublia. » Et chapitre 41, et le verset 1, « Et au bout de 2 ans, le Pharaon fit un rêve. » Dites à quelqu'un près de vous, « Dieu te prépare pour quelque chose de beau. » Dites ça à la personne près de vous. C'est dans la persévérance dans ce qui est petit, ce qui est en dessous de notre rêve, ce qui est quotidien et ce qui semble parfois anodin, futile, inutile, que Dieu prépare son rêve en nous. Joseph a été mis dans une prison qui, en hébreu, le mot était le mot « sohar ». Et ça voulait littéralement dire, il y avait d'autres prisons, mais c'est dans celle-là qu'il a été mis. Il a été mis dans la prison juste à côté du palais du roi. C'est extrêmement significatif. Dieu le rapprochait de l'accomplissement de son rêve sans qu'il le réalise ou le sache. Mais alors qu'il est mis dans cette prison-là particulière, elle s'appelle le puits. C'est la prison qui est sohar, le puits. Cette prison-là s'appelle le puits. Lorsqu'il est mis dans le puits, c'est certain. Car chaque matin, il se levait en combattant ses pensées de « Au début de ma vie, j'avais le rêve de Dieu et mes frères m'ont mis dans un puits. Et tout ce que j'ai fait depuis ce temps-là, c'est essayer de marcher avec Dieu. Puis me voilà de retour à la case de départ. Je suis revenu à la même place qu'avant. Est-ce que j'ai vraiment progressé? Est-ce que ça donne vraiment quelque chose de marcher avec Dieu? Est-ce que ça donne vraiment quelque chose de suivre Dieu? » Lui ne voyait que la servilité du moment, ne voyait que la laideur du moment. Je suis un captif. Mais à tous les matins, il faisait le choix de dire « Là où je suis, dans ces choses-là, tellement petite, je vais continuer, je vais servir. » Et Dieu le bénissait, et Dieu le fortifiait. Il devient littéralement un serviteur. Il se mit à servir les prisonniers. Alors qu'il sert les prisonniers, lui pense que peut-être il perd son temps. Mes années passent, je perds mes meilleures années, mais Dieu est en train de faire une œuvre en lui. Dieu est en train de faire une œuvre en lui. Je veux dire à chaque personne ici, à toutes sortes de catégories de personnes de notre Église, je veux vous encourager ce matin à essayer de vous dire, continue fidèlement avec ce que Dieu a mis dans tes mains en ce moment. Je veux dire à chaque parent qui sont ici que le rêve de Dieu pour nos enfants va s'accomplir dans une multitude de journées qui deviennent des années où nous répétons les mêmes choses, où nous faisons les mêmes choses, où avec patience nous nous donnons. Il y a des mamans monoparentales qui sont ici et je comprends très, très bien tous les mamans monoparentales et les mamans toutes celles qui ont de jeunes enfants. Lorsqu'on élève un jeune enfant, il y a toutes sortes de gestes qui doivent être répétés des milliers de fois, qui parfois, ça devient comme une espèce d'étourdissement. On est fatigué, les mères manquent de sommeil, se lèvent le matin, puis c'est toujours la même chose. C'est le déjeuner, c'est les couches, c'est le dodo, c'est recommencé, c'est répété. Et ça semble tellement petit. Ça semble tellement des femmes qui disent, « Moi, j'avais des aspirations, moi, je voulais faire quelque chose. » Le rêve de Dieu s'accomplit dans des milliers de gestes, dans des milliers de décisions que nous prenons, de continuer à servir le mieux que nous pouvons avec ce que Dieu a mis dans nos mains, de dire, je vais lui donner mon mieux. Les étudiants qui sont ici, qui sont au secondaire ou qui sont au cégep, et puis moi je rêve de ceci, voici ce que je veux faire dans ma carrière, mais là, je me retrouve dans un cours tellement plate, tellement loin de ce que je suis habillé. Il me semble que c'est pas ça, ça semble tellement... Le rêve de Dieu meurt ou vit dans des milliers de journées où on est appelé avec des choses qui nous semblent infiniment petites, puis on est appelé à les faire passionnément. Des gens qui sont ici, qui ont des décisions à chaque semaine et à chaque, dans votre vie, de est-ce que je vais être honnête ou est-ce que je vais frauder? Est-ce que je vais travailler honnêtement ou est-ce que je vais travailler malhonnêtement? Est-ce que je vais être ouvert dans la vérité ou est-ce que je vais toujours avoir une partie de ma vie qui est dans le mensonge? Il semble que personne ne voit. Il semble que c'est tellement petit. Il semble que c'est tellement loin, que je suis tellement loin du rêve de Dieu de toute façon. Mais le rêve de Dieu est gagné et perdu dans une multitude de petits gestes que personne ne voit. Le rêve de Dieu se gagne ou se perd dans toutes ces choses-là. Tous ceux qui ont à cœur de servir Dieu ici, vous avez un rêve de servir le Seigneur. Vous avez un rêve de ministère, pas de grandeur dans un sens vaniteux, mais vous avez un rêve de servir Dieu, quelque chose qui brûle sur votre cœur. Mais en ce moment, ce que Dieu vous appelle à faire et ce qui est devant vous semble petit. Vous rêvez d'être prédicateur, mais vous avez quelques personnes devant vous. Vous rêvez de choses, mais en ce moment, il y a autre chose qui est là. Je veux vous défier, je veux vous encourager là où tu es en ce moment, dans le sohar du puits parfait. parfois, alors que tu vas servir, alors que tu vas te donner, alors que tu vas donner ton mieux aux gens que Dieu t'a confiés, à cet endroit-là, Dieu est en train de te préparer pour les prochaines étapes. Ce principe-là, il est partout dans la parole de Dieu. Nous le voyons dans la vie de Joseph, que lorsque nous sommes fidèles dans des choses qui semblent petites, c'est un secret du royaume de Dieu, que l'engagement, lorsqu'il n'y a pas d'émotion, produit l'excellence. Lorsque j'ai aucun feeling, aucune émotion, est-ce qu'on peut être honnête pendant quelques instants, après un certain temps, peut-être que des jeunes mamans, que la première fois qu'elles changent une couche, c'est un moment d'émotion. Peut-être que... Combien croient qu'après la millième, l'émotion est passée? Dites amen. L'odeur reste, mais l'émotion est partie. L'engagement, lorsqu'il n'y a pas d'émotion, produit l'excellence. La responsabilité, lorsqu'il n'y a pas de récompense, produit la richesse. La fidélité, lorsqu'il n'y a pas de félicitations, lorsque personne ne te voit et que tu sers fidèlement, c'est ça qui va produire une foi en toi, une vraie flamme. Aider, lorsqu'il n'y a pas d'applaudissements, produit les accomplissements. Servir lorsqu'il n'y a pas de spectateur produit le surnaturel. S'accrocher tant qu'il n'y a pas d'avancement produit la vraie, la véritable authenticité. Persévérer lorsqu'il n'y a pas de promotion. Il semble qu'il n'y a aucune promotion en vue pour moi. Personne n'a dit à Joseph, fais-le quelque temps puis tu vas pouvoir monter vers le palais. Alors, en autant qu'il était concerné, c'est ici que je suis, c'est ici que je vais être. Et il n'y avait aucune intention originale en lui de rester là. Vous comprenez que Joseph se levait pas le matin en disant, wow, c'est extraordinaire, je suis rendu, wouhou, je suis en charge des cellules, je suis en charge des cuisines. Peut-être que bientôt, je vais être en charge des toilettes dans la prison. Wow! Non, il y avait dans Joseph, la minute que tu vois son cœur, quelqu'un, à chaque fois que quelqu'un sortait par la porte, il pognait par le bras. Hey, parle à Pharaon. J'ai rien fait. Hey, j'ai rien fait. La porte se ferme. J'ai rien fait pour être ici. Sortez-moi d'ici. Est-ce que vous me suivez? Mais après ça, il remettait ses mains dans ce que Dieu lui avait donné. Puis il faisait tout son cœur. Parce qu'il y a une acceptation d'où je suis aujourd'hui, qui va produire une accélération. Il y a une acceptation, si tu acceptes où tu es aujourd'hui, que tu t'y donnes passionnément, c'est ça qui te prépare et qui produit une accélération de l'accomplissement des choses de Dieu. Pendant que Joseph, la suite de l'histoire, c'est que pendant que Joseph était dans sa prison, puis il pense qu'il va mourir là, il pense qu'il est oublié, il pense que ce qu'il fait n'est vu de personne et que Dieu même l'a oublié. Pendant ce temps-là, dans le palais, juste à côté, c'est la prison du palais. Joseph n'a aucun moyen de le savoir. Il y a toutes sortes de choses qui sont en opération autour de vous, que vous n'avez aucune idée qui se passe, mais Dieu est en train de travailler pour vous. Et Pharaon, le roi du pays, a eu un rêve. Et il a rêvé, puis ça l'a beaucoup troublé. Il a eu un rêve, puis dans son rêve, il l'a fait une fois, parce qu'il l'a fait une deuxième fois, deux thèmes différents, deux visions différentes, mais le même thème. Il a rêvé, il a vu 7 vaches grasses en santé qui devenaient maigres, qui étaient dévorées. Il a vu 7 épis gras et beaux qui sont devenus maigres et brûlés et qui les engloutissaient. Les vaches maigres dévoraient les vaches qui étaient en santé, et les épis qui étaient brûlés dévoraient les épis qui étaient en santé. Et lorsqu'il se lève le matin, et Pharaon était un personnage. Toutes les livres d'histoire nous en parle, il pouvait mettre à mort. Dans le chapitre précédent, il y a un gars qui est décapité pour, on ne sait même pas pourquoi, c'était quelqu'un qui avait pouvoir de vie et de mort, il est extrêmement volatile, il était hors de contrôle dans ses émotions parfois. Dites à quelqu'un près de vous, il est pire que ton boss, dites ça à la personne près de vous. Et là, il se lève un matin et ça va pas bien parce que là, il va avoir une explication. Qu'est-ce que ce rêve-là veut dire? Chapitre 41, verset 8, le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Il fit appeler tous les magiciens, tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses rêves, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs, contre nous. Il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Et nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le rêve qu'il avait eu. Il y avait là un jeune homme, un jeune hébreu. Et nous lui racontâmes nos rêves et nous les expliqua. Et les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous a donnée. Quelle scène. Joseph peine. Joseph est dans la prison de la petitesse et de ce qu'il pense et l'oublie. Puis alors qu'il sert les prisonniers, qu'il est là et que la main de Dieu est sur lui, mais il ne le réalise pas à chaque jour, mais la main de Dieu est sur lui, Pharaon devient de plus en plus agité. Il vient plus, la pression monte et tout le staff autour a la tête penchée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va m'interpréter ce rêve-là? Ça veut dire quelque chose, ça. Les 7 vaches, les vaches maigres, les vaches grasses deviennent maigres, les épis. Quelqu'un me parle de vaches et d'épis. Je vais entendre une explication. Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose à dire? Oh! Y a-t-il quelqu'un qui va me donner une explication? Puis d'un coup, le gars qui est en arrière, moi, Tango, quand, puis ça ne tente pas de parler. Vous comprenez que dans le chapitre précédent, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait, mais il s'est fait jeter dans la prison, puis que son compagnon qui s'était jeté avec lui, qu'on ne sait pas pourquoi, lui est mort, puis il a juste survécu, puis il est revenu au palais. Ça ne tente pas de rappeler à Pharaon qu'est-ce qu'il avait fait. Est-ce que vous me suivez? Il dit, je vais rappeler le souvenir à Pharaon de ma faute. Lorsqu'on était dans la prison où tu m'avais envoyé, là, moi, j'ajoute bien injustement, car je suis un serviteur extraordinaire qui était entièrement dévoué, Pharaon. Il y a un jeune homme qui était là, puis on avait un rêve, puis il nous l'a interprété. Puis, ce qu'il a dit est exactement arrivé. Il y a une acceptation qui produit l'accélération. Toi, tu fais seulement servir le Seigneur fidèlement en ce moment, puis tu ne le sais pas. Joseph est là, et il ne le sait pas, mais l'horloge du cadran de Dieu est en train d'arriver vers l'accomplissement. Je veux dire prophétiquement à plusieurs d'entre vous qui avaient été fidèles et qui l'êtes en ce moment et qui pensaient peut-être que les choses vont juste demeurer comme elles sont, que Dieu a vu vos cœurs, que Dieu a vu votre fidélité et que Dieu a vu, parce que d'aller déclarer, Dieu a vu ton cœur et ta fidélité dans ce que Dieu t'avait donné. Et plusieurs personnes qui sont ici, Richard Toupin et plusieurs autres. Dieu a vu la fidélité là où tu étais. Il a vu et à travers chacune de ces moments-là, il y avait une préparation qui se faisait en vous. Préparation qui se faisait. Et Dieu dit, il y a un moment qui arrive, il y a un timing de moi. J'ai vu un cœur qui était préparé et je m'apprête. J'ai vu ton acceptation et tu te donnais de tout ton cœur. Et l'heure de l'accomplissement et de l'accélération a sonné. Quelqu'un devrait dire amen. Pour chacune de vos vies. Alors, le Pharaon dit, faites-le-moi, envoyez-le-moi chercher. Joseph pense qu'il est oublié. Pharaon le fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de la prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Comprenez-vous que des théologiens, juste sur la phrase, se changea de vêtements et se rasa, moi j'ai des dizaines, au moins 10 pages de notes. Les théologiens et commentateurs s'assinent là-dessus parce qu'ils disent, il y en a qui disent, la condition de la prison était tellement horrible que c'est possible qu'il y avait seulement, comme les images que vous avez vues des pires prisons du monde, qu'il y avait une barbe, il était hirsute, il s'était pas lavé depuis si longtemps, et puis il y en a qui disent qu'il mettait seulement comme un sous-vêtement, il n'y avait même pas un vêtement à se mettre sur le dos. Est-ce que vous comprenez que personne qui ne regardait Joseph ne voyait quelque chose de grand, et que lui-même, on était peut-être venu à ne rien voir de spécial en lui, mais Dieu vois ce que tu vois pas et ce que les hommes ne voient pas. Dieu voyait ce qu'il était pour devenir. Quelqu'un devrait dire amen. Alors, on le rase, change de vêtements, il est étourdi, on le prend par le collet, on l'amène dans le palais du roi. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un rêve, personne ne peut l'expliquer. J'ai appris que tu expliques les rêves après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable. Dites à voix haute, bonne réponse. Good answer. La préparation pour le rêve de Dieu peut vous conduire au-delà de ce que vous avez imaginé. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Il va y avoir 7 années de grande abondance dans le pays. Et par la suite, 7 années de famine qui vont être tellement terribles que les gens vont même oublier qu'il y a déjà eu une période où ça allait bien. Et cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra même plus de l'abondance qu'il y avait eu dans le pays. Si Pharaon a vu le rêve se répéter une seconde fois, c'est parce que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse, c'est Joseph qui parle, maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays. Suivez bien un instant. Dans les années d'abondance, pendant des siècles précédents, dans les années d'abondance, les rois avaient en abondance, puis ils dilapidaient, ils dépensaient tout ce qu'ils avaient pendant les années d'abondance, puis quand la famine arrivait, ils n'avaient rien eu. Ils n'avaient rien préparé, puis ils crevaient. Et Dieu donne une parole prophétique à Joseph. Il lui dit, voici comment tu pourras faire. J'ai sauté quelques versets, puis vous regardez dans le chapitre, c'était un plan tellement stratégique. Tu vas voir, voici ce qui va arriver. Les 7 vaches qui sont en santé représentent l'abondance qu'on a en ce moment. Mais les vaches maigres représentent ce qui s'en vient, c'est la famine. Les pies représentent l'abondance, mais les épis brûlés représentent la famine. Maintenant, ce que tu devrais faire, et Joseph dit, écoutez bien ceci, il dit, choisis-toi un homme, choisis quelqu'un qui va gérer tout ça, qui va administrer tout ça. Vous regardez dans le livre, dans le chapitre 40-41, il lui dit quoi faire. Tu vas mettre des gestionnaires, tu vas mettre des fonctionnaires, ça va être régional. Il y avait tout un plan et il le donne. Et Joseph dit à Pharaon, trouve-toi quelqu'un, tu as simplement à trouver quelqu'un pour faire ça, et le pays va être sauvé. Et là, encore une fois, les théologiens s'arrêtent, ils disent, ils débattent, ils disent, mais est-ce que Joseph faisait preuve de fausse humilité? Dans le fond, c'est lui qui devrait le faire, puis il se voyait là, mais il voulait pas le proposer. Est-ce que, moi, je crois sincèrement que Joseph, lorsqu'il a dit ça, c'est qu'il croyait sincèrement. Voici le plan, voici ce que Dieu m'a donné, mais maintenant, trouve-toi quelqu'un qui est capable de faire ça. Voici que Joseph ne pouvait même pas imaginer tout ce que Dieu avait préparé en lui. Tu ne sais même pas pourquoi, jusqu'à quel point tu es prêt. Tu ne sais même pas jusqu'à où l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Le cœur de l'homme ne peut pas imaginer la préparation que Dieu a faite en toi, les choses que Dieu a préparées en toi. Tu ne peux pas t'imaginer tout ce que tu vas être capable de faire si tu restes accroché à la préparation de Dieu. Joseph a dit, moi, je suis un interpréteur de rêve. Voici ce que Dieu m'a donné, mon travail. Voici, puis maintenant, que Pharaon soit conduit à trouver un bonhomme pour faire tout ça. Et là, Pharaon va dire des mots qui vont changer l'histoire de Joseph, mais changer l'histoire d'un pays. Ces paroles plurent à Pharaon. J'invite les musiciens à s'approcher alors qu'on arrive à la fin du message. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? » Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit comme toi. » Je veux aussi dire ceci à tous ceux qui vont entrer dans l'accélération. Je crois que plusieurs d'entre nous, dans les prochaines semaines, mois et années, allons entrer dans une accélération de l'accomplissement de Dieu. Parce qu'on a été préparé dans le lieu secret, préparé dans le lieu que personne ne voyait, où tu t'occupais des prisonniers. Mais là, Dieu dit, le temps est arrivé de l'accomplissement. Et tu vas avoir des moments où tu te sens tellement incapable. Tu vas avoir des moments où tu te sens tellement incapable. Toi, tu ne le vois même pas. Tu dis, Seigneur, même si j'ai rêvé à cela, je te dirais, Seigneur, envoie-en un autre. Mais ce n'est pas à cause de ton esprit que tu vas pouvoir le faire. Mais c'est parce que l'Esprit de Dieu est mis en toi. Je t'ai préparé. J'ai dit ça à chaque gradué de l'ITF. J'ai dit ça à chaque étudiant qui retourne vers son pays. L'Esprit de Dieu est en nous. Dieu t'a préparé et maintenant il va accomplir. Quelqu'un devrait dire amen. Quelqu'un devrait applaudir tout ce que Dieu peut faire à travers nous. Je t'établis sur ma maison et sur mon peuple. Voici, je te donne le commandement de tout le pays. Le pharaon ôta son anneau de sa main et il le mit dans la main de Joseph. Dans l'Ancien Testament, l'anneau du roi, c'était comme la plus grande carte de crédit du pays. Parce que le roi avait un sceau sur son anneau. Puis lorsqu'il mettait son sceau dans la cire, partout où il pouvait le mettre, ça représentait toutes les finances, toute la trésorerie de tout le palais au complet. Il lui a mis l'anneau dans ses mains et lui a dit, « Non seulement as-tu été préparé pour le rêve, mais je vais pourvoir la provision pour le rêve. » Dans mes notes, c'était écrit qu'il y aura au moins 4-5 qui diraient « Amen » à ça. Que lorsque Dieu nous prépare, il va pourvoir aussi pour l'accomplissement de son rêve. Voici le roi a mis un manteau nouveau sur lui, un collier d'or à son cou. Ils ont mis des chaînes, ses frères avaient mis des chaînes à ses pieds. Mais maintenant, le roi met une bague à son doigt. Il avait été responsable de quelques prisonniers au fond du puits. Mais maintenant, il est responsable d'une nation. Il a été dépouillé du manteau de son père. Mais maintenant, le roi met le manteau sur ses épaules. Le manteau du rêve de Dieu. Et cette parole est pour chacun d'entre nous ce matin. J'aimerais vous inviter à pencher la tête pendant un instant. J'aimerais faire un appel à nos places solennelles. Je veux faire un appel à tous les parents qui sont dans ce lieu, qui seraient renouvelés ce matin dans un désir de dire, Seigneur, je veux que tu me fortifies. Je veux que tu m'aides, je veux que tu me remplisses de patience et de douceur et de foi et de fermeté. Seigneur, je veux être fidèle dans ce que tu m'as confié. Et au-delà de tous les autres rêves, le rêve suprême que tu me donnes est un rêve pour ma famille. Alors ce matin, Seigneur, je ne fuirai pas ce lieu. Je ne fuirai pas cet appel. Je ne fuirai pas cette responsabilité. Là où tu m'as placé, avec ma famille, avec mon épouse, avec mon époux, avec mes enfants, ce matin, je veux m'offrir à toi. Les mamans monoparentales qui sont ici, quelles que soient les épreuves de mon passé, ce matin, ces enfants que tu m'as confiés. Et par ta grâce, je veux me lever. Les papas qui sont seuls, qui sont ici. Et par ta grâce, je veux me lever ce matin et dire, Seigneur, Garde-moi fidèle, rends-moi fidèle, fortifie-moi pour être fidèle. Dans ce qui semble parfois répétitif et futile, petit et parfois décourageant et troublant, je ne sais pas comment y arriver. Mais je mets ma confiance en toi et je veux être fidèle à mon appel. J'aimerais inviter tous les parents qui disent « cet appel-là est pour moi » et qui veulent s'offrir ainsi à Dieu, à vous lever à vos places et à dire « me voici Seigneur, je m'offre à toi ». Juste de vous lever à vos places et dire « me voici Seigneur, je m'offre à toi ». Je vais inviter tous les célibataires qui sont dans ce lieu, qui peut-être aspirent à des choses dans vos vies qui sont légitimes. Mais en ce moment, dans l'état où vous êtes, j'aimerais vous défier à vous lever et à dire « me voici Seigneur ». Et dans l'acceptation de mon état actuel, dans la vie que j'ai actuellement, dans les limites que j'ai actuellement, dans la situation que j'ai actuellement, je veux te servir. Je veux, Seigneur, accepter afin que cette accélération d'accomplissement puisse prendre place en moi. Je veux appeler que chaque célibataire qui désire répondre à cet appel se lève et s'offre à Dieu. Je veux appeler tous les serviteurs de Dieu, tous les gens qui ont un rêve de servir le Seigneur. Vous avez un rêve, c'est pas dans la prétention, dans l'arrogance. Mais vous avez un rêve de servir Dieu. Eh bien, en ce moment, peut-être qu'il y a des choses qui semblent bien en dessous du rêve de Dieu, bien petites en comparaison avec le rêve de Dieu. Mais là où vous êtes, j'aimerais vous inviter à vous lever solennellement et à dire, je viens m'offrir à toi, Seigneur. Je viens m'offrir à toi, Seigneur. Et dans le puits, je vais te servir. Avec quelques personnes, je vais te servir. Avec mes limites, je vais te servir. Lorsque je me sens oublié ou loin du rêve de Dieu, je vais te servir. Et dans ce lieu-là, Seigneur, tu vas me multiplier. Dans ce lieu-là, tu vas faire, j'aimerais inviter tous les jeunes au son de ma voix. Tous les jeunes 25 ans et moins au son de ma voix, que vous soyez aux études ou où que vous soyez. Peut-être qu'il y a un rêve que, sur ton cœur que tu sais. Ou même il y a des jeunes qui sont ici, je ne sais pas ce que Dieu veut pour moi. Je ne sais pas le rêve de Dieu pour moi. Mais là où je suis aujourd'hui, je peux me lever et je peux dire, je vais être fidèle à Dieu. Je vais demander à Dieu de m'aider. Je vais suivre Dieu. Ce que Dieu me donne à faire, je vais le faire de tout mon cœur. Et je vais faire confiance à Dieu. J'invite les jeunes à se lever aux quatre coins de ce lieu. Et ce n'est pas un geste légaliste ou extérieur. Mais si vous êtes libre de le faire, est-ce qu'on peut tendre nos bras comme un enfant tend ses bras vers quelqu'un qui l'aime, vers son père qui l'aime? Et est-ce qu'on peut dire, Seigneur, je te donne mes rêves ce matin. Je m'abandonne à toi ce matin. Tous les serviteurs de Dieu, tous les pères, les mères, toute l'Église se lève et dit, me voici, Seigneur, me voici.
Me voici à tes pour te demander une touche de ta présence. Voici à tes pieds mon roi, voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Moi mon désir
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.